RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Binti Minoudi, votre émission politique hebdomadaire. Nous faisons aujourd'hui un pas de côté pour parler de politique sanitaire. Au lendemain de la visite dans l'île de la ministre de la Santé, nous recevons celle qui décline sa politique en Corse, la directrice de l'Agence régionale de santé, Marie-Hélène Le Sen. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Sous les feux des projecteurs pendant la crise Covid, vous êtes toujours confronté à une actualité très riche ces derniers temps. Nous parlerons donc aujourd'hui infrastructure hospitalière, avec notamment la question de l'hôpital de Bastia, mais aussi moyens humains, études de médecine, CHU, attractivité et secteur libéral. Enfin, des sujets on ne peut plus d'actualité également, dépendance et fin de vie. Binti Minoudi, c'est parti.
Binti Minoudi, l'émission politique.
La ministre du Travail et de la Santé était donc en Corse hier à Vico et vous étiez avec elle, Marie-Hélène Le Sen, pour inaugurer le tiers-lieu d'un EHPAD, mais pas que. Cette visite, c'est aussi l'occasion pour Catherine Vautrin d'aborder d'autres sujets majeurs liés à la santé en Corse, celui des infrastructures, on le disait, et notamment de l'hôpital de Bastia. Alors, pas de grosse annonce, mais l'assurance que les discussions se poursuivent. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui même. Vous avez une réunion avec les acteurs de ce dossier ici et à Paris.
Oui, tout à fait. En fait, on a eu une première expertise nationale, en fait, il y a 2 ans, où on a posé les termes du débat, je dirais, du projet immobilier de manière globale.
On n'a jamais eu ce rapport, hein?
Non, tout à fait. Il n'a pas été communiqué. Ces experts sont revenus fin mars pour travailler sur des hypothèses un peu plus fines qui vont dessiner la trajectoire du projet immobilier du CH de Bastia. Et donc, j'ai échangé avec la ministre directement pour convenir finalement des modalités d'instruction de ce projet. Donc, c'est vrai que cet après-midi, on refait le point avec les experts du Conseil scientifique de l'investissement en santé et la direction du CH de Bastia.
La ministre Catherine Vautrin, elle vous place un peu en première ligne dans ce dossier, Marie-Hélène Le Sen.
Oui, parce qu'en fait, d'abord parce que je commence à connaître le dossier de manière approfondie et puis parce que c'est au carrefour vraiment de multiples paramètres. Il y a le site actuel, il y a le site de TOG, on a aussi le souci de prendre en compte la position des élus, des usagers, de l'organisation syndicale majoritaire, et donc c'est vraiment au carrefour de toutes ces appréciations du projet immobilier que nous devons continuer de travailler.
Justement, vous avez œuvré à la nouvelle visite de la commission dont on parlait, la Commission nationale d'investissement en santé. Qu'est-ce qu'il est advenu de ce premier rapport, celui qu'on a tant attendu, puisque vous parlez d'hypothèses plus fines aujourd'hui? Qu'est-ce qui était trop grossier dans le premier?
En fait, c'était une vision globale alternative entre reconstruction ou restructuration, sans dessiner finalement la trajectoire pour atteindre l'un ou l'autre des choix. Et ce que nous travaillons aujourd'hui, c'est de manière plus fine de définir cette première phase qui va ensuite permettre au projet de se dérouler, si je puis dire, de manière progressive et en plusieurs phases.
On va rentrer donc précisément dans le projet, mais certains parlementaires comme Michel Castellani, qui défend le dossier, on le sait, se sont étonnés d'apprendre cette nouvelle visite de la CNIS directement au Palais Bourbon. Il y a peu de communication entre vous?
Alors non, la communication est totale dans la mesure où les élus ont pu participer à un échange direct avec les experts le deuxième jour de leur visite, en mars dernier, et que donc on a justement veillé à ce que les experts puissent rencontrer non seulement les élus, mais également les organisations syndicales et les usagers. Donc on a vraiment ce souci, en tout cas, de prendre la mesure finalement de ce que les acteurs locaux peuvent exprimer comme attente, comme besoin, parce que au final, c'est un projet immobilier qui doit servir des prestations de soins, des organisations nouvelles d'activités de soins, et donc c'est bien l'objet principal.
Vous parlez donc toujours à ce stade des deux trajectoires possibles, évidemment, rénover l'existant ou un nouvel hôpital. Le directeur de l'hôpital de Bastia s'est exprimé en ce sens sur notre antenne il y a peu, justement, alors qu'il avait accueilli donc cette délégation. On écoute Christophe Arnoux, on en parle après.
Justement, pour nous éclairer, que les experts du Conseil national d'investissement en santé sont venus. Ils ont pu apprécier non seulement la dynamique de l'hôpital de Bastia, mais également voir quelles étaient toutes les contraintes de réalisation de travaux dans l'existant. On a beaucoup parlé des problématiques, notamment au niveau des urgences, de la réanimation, des soins intensifs. Mais travailler en site occupé, c'est très compliqué. Ça prendrait beaucoup de temps et on a voulu qu'ils puissent avoir un nouveau regard sur les possibilités architecturales du centre hospitalier de Bastia.
20 minutes, l'émission politique.
Alors, le directeur, il est assez clair, hein, rénover, travailler sur un établissement occupé, c'est contraignant, c'est compliqué, puis c'est long, surtout, dit Christophe Arnoux, des éléments en faveur d'un nouvel hôpital.
Oui, donc ce sont des parmi les hypothèses, hein, c'est une des hypothèses, et dans le cadre de l'instruction qui nous est demandée à l'échelle régionale hein, de poursuivre, c'est vraiment de définir la première phase qui pourrait éventuellement nous conduire sur un chemin de la reconstruction. Donc la ministre attend des éléments...
C'est l'hypothèse privilégiée donc.
C'est une des hypothèses et nous devons instruire pour éclairer la décision ministérielle.
Le saupoudrage, en attendant, à long terme, ça peut coûter cher aussi. Hein. Les murs sont difficiles à pousser. Vous parliez des représentants des usagers, entre autres, au conseil de surveillance. Eux, ils s'inquiètent de la vision à long terme. Pour eux, Josette Ristero, je le disais sur notre antenne, on a loupé le coche avec les travaux du bloc opératoire. Par exemple, aujourd'hui, les praticiens partent opérer à Fouriane, faute de salles.
Oui, alors c'est pas tout à fait, c'est pas forcément un déficit en nombre de salles. C'est surtout que le CH de Bastia porte un certain nombre d'activités spécialisées et d'hyper spécialités qui demandent qu'on dédie des salles à cette aux dites activités. Et donc c'est aussi cet élément-là, c'est-à-dire que c'est la montée en compétence du CH sur un certain nombre de nouvelles activités. Et donc c'est aussi ce qui explique qu'on ait besoin de salles supplémentaires. Et puis on assiste à une demande beaucoup plus importante de chirurgie. Et nous faisons l'hypothèse hein, que c'est lié au vieillissement de la population. Mmh. Et donc depuis la fin de la crise sanitaire, on a vraiment une forte demande. Ça se traduit aussi à Ajaccio de la même manière. Et donc, on a aussi à satisfaire des besoins qu'on avait peut-être un petit peu mésestimés au moment où on a pensé la restructuration du bloc. Donc, bien avant 2000, c'était en 2017 qu'on avait prévu ce projet qui a été livré en 2019.
D'où le besoin de voir loin, oui.
Voilà, donc c'est vraiment aussi la difficulté quand on produit un projet médico-soignant pour un centre hospitalier. On doit vraiment prendre en considération aussi cette évolution de la demande en soins.
L'hyperspécialisation, Marie-Hélène Le Sien, elle est aussi parfois à l'origine de manque de moyens humains. Certaines spécialités sont plus touchées que d'autres. À l'hôpital de Bastia, justement, le service de rééducation principal du département hein, repose sur un médecin à temps partiel, très engagé, mais à temps partiel, en l'absence d'intérim. Une partie est parfois à l'arrêt, c'est un exemple, il y en a d'autres. La loi Rist, elle a laissé des traces, mais elle n'explique pas tout.
Non, on a clairement un enjeu de plaidoyer de nos plateaux techniques et de nos compétences. Hein, c'est vraiment pour être davantage attractif. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on partage avec les établissements et les équipes. Après, c'est vrai que sur certaines spécialités, il y a des tensions qui sont nationales. Hein, sur la compétence MPR, c'est le cas. Et donc, effectivement, il faut que nous, on s'organise. On met en avant des projets, des filières, le lien avec les différents niveaux d'une filière, y compris jusqu'au domicile. Et donc, c'est tout ça qui participe finalement à attirer des ressources médicales. Dans l'intervalle pour le CH de Bastia, et globalement pour toute l'île, hein, on est assez satisfait des dernières informations qu'on a eues, puisqu'on a 53 internes qui arrivent hein, sur l'île.
Oui, la ministre le confirme. Hier.
10 personnels, donc des médecins d'origine étrangère qui ont passé des examens pour pouvoir exercer sur le territoire national. Et donc, on a 10 de ces médecins qui sont affectés en Corse. On a également 10 docteurs juniors. Donc, ça va être aussi très intéressant puisque la majorité de ces personnels médicaux sont affectés au CH de Bastia, ce qui va permettre au CH effectivement de faire face à court terme et à moyen terme.
J'allais dire là, on est plus sur l'anticipation de ce qui finalement se pose comme problème chaque année, le pic estival, vous le voyez arriver. Cette année peut-être avec un petit peu plus d'appréhension qu'une autre, la question des Jeux Olympiques aussi occupe beaucoup les autorités sanitaires.
Oui, on a vraiment anticipé très très vite avec les centres hospitaliers et les établissements privés, hein, notamment la clinique de Porto-Vecchio qui gère un service d'urgence. En fait, c'est vrai que le nombre de remplaçants sera sans doute moindre cet été du fait d'une concentration des ressources pendant la période des Jeux Olympiques sur l'Île-de-France. Et donc, on a effectivement par les internes, les PADU et d'autres viviers finalement de ressources médicales. On s'est mobilisé collectivement pour pouvoir vraiment garantir au système de santé corse d'être au rendez-vous de cet été avec une probabilité d'une augmentation du nombre de touristes. Donc là, aussi, les dernières nouvelles sont vraiment rassurantes. Le centre hospitalier de Bastia est en train de refaire le point sur ses plannings avec ses ressources nouvelles.
Les urgences tiendront cette année.
Oui, donc je pense qu'effectivement, on a ces récentes nouvelles nous viennent vraiment nous rassurer, notamment à Bastia.
Vous misez beaucoup, donc on l'a compris, aussi sur le secteur libéral, avec la question des maisons médicales de garde, l'existant, mais aussi de nouvelles structures.
Oui, alors le secteur libéral, hein, la médecine générale, hein, ce sont vraiment nos partenaires, hein, depuis la crise sanitaire. On sait que, y compris dans les phases de tension, on peut compter vraiment sur ces acteurs, hein, vraiment très très importants, puisque compte tenu de notre géographie, le fait qu'ils puissent développer des réponses de première ligne, c'est vraiment précieux pour limiter le recours systématique aux urgences. Et donc de fait, dans tous les territoires, ceux-ci se mobilisent et nous avons effectivement en perspective des réorganisations de maisons médicales de garde avec une amplitude horaire ou une amplitude, y compris en nombre de jours d'ouverture plus important. Et puis on a de nouvelles maisons médicales de garde et donc on est encore au travail, mais je pense qu'en juin on sera en capacité de livrer finalement la carte de ces structures, puisque c'est vrai que c'est un recours en proximité tant pour les résidents que pour les touristes et ça constitue véritablement un filtre pertinent.
Sur lequel vous comptez beaucoup, mais qui se révolte tout de même ces derniers temps, Madame Le Sen. Les négociations, par exemple, avec l'assurance maladie sont difficiles pour le secteur libéral. À l'arrêt, hein, disent certains à ce stade. Et les professionnels parlent de déconventionnement. Hein, vous avez participé à certaines réunions où c'est évoqué. On va écouter le porte-parole du collectif ML Corsica qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, le docteur Cyril Brunel, et on y revient.
La non-reconnaissance de l'insularité et de la spécificité corse, si vous voulez, on nous a demandé de nous inscrire dans une démarche sur 4 mois en essayant d'étayer quelles étaient ces spécificités. Elles ont été reconnues au travers des discussions, mais elles ne se sont pas concrétisées lors de la convention. Donc concrètement, on a l'impression que la Corse et ses malades, hein, ont été invités à une sorte de dîner de cons pendant 4 mois. Tout ça. Il y a aussi une dimension nationale à cette convention, hein, qui est en fait un système de forfait à l'anglaise qui va être mis en place progressivement, qui va encore plus aggraver la situation en Corse, qui est déjà pas bonne. Et donc là, les conséquences, on les a vues tout de suite, hier soir. On a 3 confrères qui ont annoncé, suite à ça, leur départ à la retraite, alors qu'ils voulaient continuer. Ça, c'est pas des menaces, c'est un fait. Après, les actions, bien sûr, on ne peut pas laisser les Corses dans cette situation-là, et surtout nos malades. Donc on va se battre. Le véritable problème, c'est que si on laisse les choses aller dans ce sens-là, il n'y aura pas besoin de se déconventionner pour que le malade ne soit plus soigné.
Binti Minoudi, l'émission politique.
Voilà, il y a la question du prix de la consultation, mais aussi certaines questions plus locales concernant le cumul des actes, les frais de déplacement aussi, des spécificités insulaires également. On a compris qu'elles n'ont pas été particulièrement entendues jusqu'ici, pourtant portées par des politiques. Hein, les parlementaires avaient écrit au ministre de l'époque, Monsieur Rousseau. Vous, ici, vous les défendez au-delà de les faire remonter ?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Le directeur général de la CNAM a proposé une revalorisation des indemnités de déplacement. Donc, c'est aussi une prise en considération de la géographie et du fait que, avec l'augmentation des malades chroniques et des personnes âgées, les médecins sont amenés à faire des visites à domicile. Donc, ça, je crois que c'est un premier point. Et puis, les dispositions qui sont davantage générales au sein de cette convention, de ce projet de convention, concernent directement la Corse. Le cumul entre consultation et acte technique n'est pas écarté. La consultation longue pour les personnes âgées est bien sur la table des négociations. Et les négociations ont repris. Donc, elles sont relancées. Et donc, effectivement, je crois que il y a vraiment la nécessité de prendre en compte que le vieillissement de la population en Corse et la démographie médicale en Corse connaissent à peu près des similitudes avec d'autres territoires du continent et qu'il ne faut pas mésestimer l'impact en termes de réponse aux revendications des médecins de mesures qui sont contenues dans la convention d'un point de vue plus général.
C'est pas compris donc de la même manière par le collectif ici. Vous avez rencontré la semaine dernière à Ajaccio le président de la CSMF, un des principaux syndicats. Après cette discussion, vous direz qu'on n'est pas dans l'impasse, on peut avancer ?
Oui, parce qu'il y a des syndicats qui, effectivement, continuent la négociation. Il y a vraiment aussi une volonté des médecins de se questionner par rapport à ce que peut faire un déconventionnement, parce que plusieurs syndicats sont très attachés à la convention, et le déconventionnement en Corse...
C'est contre nature par rapport au métier du médecin, disait même le docteur Brunel, hein, sur notre antenne.
Voilà, parce que c'est vrai que la précarité en Corse rend difficile pourrait donner un impact en termes d'accessibilité aux soins du déconventionnement majeur.
En effet, le collectif donc est suivi et évidemment ne porte pas le déconventionnement comme sa première volonté, mais c'est évoqué et vous le prenez donc au sérieux. En attendant, toutes ces questions, elles tournent encore et toujours autour de la question de l'attractivité du métier. La ministre Catherine Vautrin a annoncé aussi une bonne nouvelle hier pour l'université également. Le premier cycle d'études de médecine accordé dès 2025, un dossier donc du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, bien sûr, qui doit être validé cet été devant le Conseil national, mais un dossier consensuel, Marie-Hélène Le Seine.
Oui, complètement, parce qu'en fait, en partenariat avec l'université et son président en particulier, nous, il nous faut faire monter en compétence le système de santé pour être capable d'accueillir ces nouveaux étudiants. C'est un petit peu comme pour les internes, il nous faut des dossiers d'agrément qui soient au rendez-vous de l'ambition. Et donc, c'est ce qui est travaillé par les établissements de santé et nous accompagnons ce mouvement, cette dynamique.
Il y a une volonté. Le professeur Papazian nous disait ce matin, donc, qui est rattaché à l'université d'Aix-Marseille, qui sera désormais donc, le partenaire exclusif, nous disait qu'il y a sur place des établissements qui se manifestent volontairement. Il se disait prêt, justement, habitué à recevoir les internes dont vous parliez précédemment et les stagiaires d'été.
Tout à fait, c'est vraiment... Alors, il y a les établissements, mais il faut aussi élargir les lieux de stage. Il y a tout le système de santé, donc ça touche aussi le médico-social ou un service comme la PMI, par exemple, géré par la collectivité de Corse. Donc, c'est vraiment tout le système de santé, finalement, qui se met au diapason de cette ambition, en sachant qu'on y a un intérêt vraiment très important, puisqu'on a fait déjà la démonstration avec la première année que les étudiants reviennent pour une grande partie. Alors c'est vrai notamment pour les installations en médecine générale, un peu moins vrai pour les spécialistes et c'est justement cette marche qu'on doit désormais avoir comme horizon.
Cette marche, c'est le premier pas vers le CHU.
En tout cas, ça participe d'un socle qui rend l'ambition politique défendue par la collectivité d'un CHRU possible. Donc c'est vrai que dans la politique des petits pas, tous ces petits pas convergent pour donner une dimension universitaire au système de santé corse. Ça peut prendre le chemin d'une démarche de type territoire hospitalo-universitaire. Ça peut passer à court terme par des conventions avec des partenaires continentaux pour développer notamment la recherche et le
l'universitarisation de nos infrastructures.
Tout à fait. C'est vraiment jouer cette carte hein, qui est partagée en termes de constat, c'est que la dimension universitaire contribue à l'attractivité. Et comme on est en déficit de spécialistes, c'est pour nous une démarche qui va dans le bon sens.
Là aussi, donc, on aura un modèle spécifique à la Corse si centre hospitalier universitaire il y a. En deux mots, vous diriez que porter ce dossier, celui de l'hôpital de Bastia, simultanément, c'est possible ?
De porter tous ces dossiers, oui, le champ de compétences de l'agence est très large.
C'est pas antinomique aujourd'hui un nouvel hôpital à Bastia et un CHU.
Non, du tout. On est dans des logiques de toute façon, comme vous l'évoquiez juste en conclusion précédemment, le fait qu'on aurait une organisation atypique qui serait multisite. Et donc, le but, c'est que on puisse vraiment travailler sur ce caractère atypique. Et c'est ce que la collectivité de Corse, à travers un comité de pilotage, continue de travailler, de creuser.
Marie-Hélène Le Seine, on manque donc de médecins, on l'a dit, de spécialistes. On manque moins d'infirmiers libéraux. En accord avec eux, vous avez donc stoppé également les installations. En revanche, eux aussi grognent, font entendre leur colère sur certains aspects. Ils veulent une revalorisation finalement de leurs actes. Là aussi, vous faites remonter uniquement ?
Oui, là on est dans une dimension comme pour les médecins libéraux conventionnels. Donc la démarche qu'on a conduite avec les deux directeurs de CEPAM, c'est effectivement de faire remonter les revendications des infirmiers. Et comme pour les médecins, on est en train de changer nos organisations et nos réponses, y compris libérales, hein, de première ligne, compte tenu de l'évolution de la population et de sa demande en soins. Et ce sont tous ces changements, finalement, qui sont au cœur des négociations conventionnelles au niveau de la CNAM.
Qui ne passent pas toujours très bien. Hein. Je pense notamment aux infirmiers en pratique avancée, qui sont défendus aujourd'hui par la politique du gouvernement, mais qui, finalement, sur le terrain, peuvent placer les infirmiers dans une situation d'injonction contradictoire. Hein. Ils pallient le désert médical, mais se trouvent en difficulté par rapport aux médecins qui sont à proximité.
Alors, les infirmières de pratique avancée, c'est un outil comme plein d'autres pour, si vous voulez, contribuer à organiser des réponses différentes que j'évoquais, notamment de premier niveau. Donc, ça n'est pas une substitution à la compétence médicale, on est bien sur des approches complémentaires et les IPA quand elles sont envisagées, créées, c'est vraiment dans des démarches collectives de projets en fait. Et c'est vrai que comme on a davantage de malades chroniques, davantage de personnes âgées, ce type de compétences peuvent vraiment apporter un plus à des collectifs de type maison de santé pluridisciplinaire ou communauté professionnelle sur un territoire, mais également en secteur hospitalier où plusieurs IPA aujourd'hui en poste hein, apportent vraiment une valeur ajoutée aux organisations.
On parle des infirmiers libéraux, c'est un maillon important notamment dans la chaîne de la dépendance et du domicile, du maintien au domicile aussi. On a compris que c'est dans ce sens-là que vous convergez, vous, les politiques de la région également. Parfois, les PAD, ça reste quand même la solution et on manque pas hein, de place ni de structure en Corse. Au contraire, il en reste. Pourquoi ?
Alors, il y a vraiment il y a plusieurs sujets qui expliquent que peut-être le recours à l'EHPAD n'est pas, ne mobilise pas toute la capacité des EHPAD. Il y a d'abord la question de l'aide sociale, hein, avec les spécificités en Corse qui rendent difficile finalement la décision d'une famille d'orienter son aîné dans un EHPAD. On a aussi une forte tradition et une politique publique qui va dans ce sens de maintien à domicile, y
avec
compris
les aidants.
Avec notamment de la grande dépendance et les polypathologies, avec surtout des professionnels au rendez-vous de ce maintien à domicile. Donc c'est un choix qui est fait en termes d'organisation qui rend finalement l'EHPAD plutôt dans une logique de recours à un âge déjà avancé ou d'offres de ressources complémentaires qui viennent étayer finalement le maintien à domicile.
La dépendance, le vieillissement de la population, le temps tourne très vite, sont des défis importants, hein, mais comme celui de la fin de vie, j'en parlais en début d'émission, il fait l'objet d'un projet de loi présenté donc hier en commission spéciale, il passera devant les députés à la fin mai, un projet qui divise évidemment, qui oppose jusqu'aux praticiens qui y sont confrontés. Je vous propose d'écouter le docteur Daniel Nicolas, le chef du service des soins palliatifs d'Ajaccio.
On sait très bien qu'il manque des moyens. Il manque des moyens dans tous les hôpitaux, hein, pas que dans les soins palliatifs, mais il manque des moyens. Et on finit par dire que bon, bah, puisque on meurt mal en France, ce qui est le cas, hein, 20 à 30% à peine des personnes des citoyens qui en ont nécessité rentrent dans un service de soins palliatifs. Hein, 12 il y a Bastia, 10 il y a Ajaccio. Le constat est fait. Effectivement, on nous finit par nous dire, après quand même des années de Covid, des démissions de soignants à l'appel, des gens qui sont épuisés et un service hospitalier qui part à la dérive. Moi, je veux bien qu'on prenne en charge la souffrance existentielle, psychologique, physique. Il faut d'abord mettre les moyens pour d'abord soulager la douleur, et on constate quand même que pas mal de personnes sont pas bien prises, insuffisamment prises en charge sur le plan de la douleur.
20 minutes, l'émission politique.
Marie-Hélène Le Sen, le manque de moyens pour les soins palliatifs, c'est le premier problème de la fin de vie ?
Non, alors d'autant moins que nous bénéficions d'une enveloppe supplémentaire dans le cadre de la déclinaison du nouveau plan national soins palliatifs, et que donc les deux unités dont parlait le docteur Nicolas vont être dotées de ces ressources supplémentaires pour notamment vraiment jouer un rôle de ressources par rapport au fait qu'on va développer les soins palliatifs partout, en fait, parce que du
les
domicile
mobiles,
à l'EHPAD jusque dans les services de spécialité, on va être confronté à cette dimension, et donc c'est très important qu'on irrigue tout le système de santé. C'est vraiment les deux pôles ressources d'Ajaccio et de Bastia qui vont à travers notamment une équipe mobile, mais pas que, pouvoir vraiment jouer ce rôle de ressource. On a aussi suite à la parution du nouveau PRS, un renouvellement des autorisations. Et c'est vrai que, notamment du côté de l'hospitalisation à domicile, cette dimension soins palliatifs sera prise en compte. Et nous aurons effectivement une offre qui sera davantage déployée sur l'ensemble du territoire.
Pas de chiffres donc sur les lits qui pourraient augmenter dans les services de Bastia et d'Ajaccio ?
Non, pas à ce stade, en fait. On doit concerter avec les acteurs, en fait, hein. Mais c'est vrai que le PRS met l'accent sur le fait que l'équipe mobile est une priorité, dans la mesure aussi ce qui permet de monter en compétence dans tous les autres services et jusqu'au domicile.
La santé fait beaucoup l'actualité ces derniers temps. On aurait pu parler également vaccination, puisque c'est de circonstance, mais le temps a tourné très très vite. Merci beaucoup Marie-Hélène Le Sen d'avoir participé à cette émission. À vous de nous écouter chez vous, dans votre voiture. Un Binti Minoudi à retrouver ce soir dès 20h sur notre antenne, et dès cet après-midi en podcast évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ce sera le retour de Patrick Vinciguerra.
20 minutes, l'émission politique.